16h23. Revenons au dossier Desjardins. Les membres des caisses Desjardins ont appris avec un grand soulagement les nouvelles mesures prises par Desjardins hier pour les protéger. Mais, je vous jure, là, plusieurs se demandent encore. Je reçois des courriels là-dessus, beaucoup de courriels. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'accusation de portée dans cette histoire de méga-vol de données, des données qui auraient été vendues à des bandits étrangers, surtout que le suspect est connu, il a même été congédié de chez Desjardins. Alors, il y a une hypothèse qui n'a pas circulé encore. Je l'ai entendue nulle part, en tout cas. Est-ce que c'est long comme ça parce que l'homme serait en train de collaborer avec la police? Un peu bon, comme un délateur, vous savez, qui décide de parler pour sauver sa peau. On va en parler avec l'avocate criminaliste récemment retraitée, Christiane Filteau. Christiane Filteau, bonjour.
Oui, bonjour, Mme Levallée.
Alors, Mme Filteau, est-ce que c'est une hypothèse plausible, selon vous, pour expliquer qu'il n'y a pas encore d'accusation de portée?
Ben, écoutez, c'est sûr qu'à ce moment-ci, on est tout à fait dans le spéculatif, hein, parce qu'il n'y a rien qui est filtré de l'enquête policière.
Exact.
Alors, est-ce que c'est une hypothèse plausible? Certainement. Parce que dans ce genre d'enquête-là, c'est certain qu'il y a un intérêt à ce que ce suspect-là donne des informations qui vont aider à résoudre cette enquête policière-là, qui, comme vous le présumé certainement, a de multiples volets et probablement des volets internationaux.
Oui,
puis alors, il y a un intérêt policier, certainement. Est-ce que ça marche ou pas? Ça, évidemment, personne ne le sait au moment où on part.
Oui, mais ça fait quand même presque un mois là, qu'on est au courant de cette fuite de données. Dites-moi, Mme Filteau, le fait qu'on a pu apprendre vendredi dernier dans le Journal de Montréal que des réseaux étrangers auraient acheté les données, faut que ça sorte de quelque part. Est-ce que ça aussi pourrait expliquer qu'il est en train de parler, le type?
Ben ça, ça dépend de quelle est la source policière, quelle est la source, c'est-à-dire, oui, qui a donné l'information aux journalistes en question. Si ça émane des policiers ou proches de la police, c'est certain qu'on pourrait conclure que ça a pour but de faire bouger les choses. Hein? Ça a pour but d'énerver des gens, de les inciter à faire des démarches ou qui permettraient à la police d'accumuler une certaine preuve contre des individus connus ou qu'on soupçonne ou qu'on enquête. Alors, ça peut être un but. Est-ce que ça émane de on l'appellera pas encore l'accusé parce que c'est pas son cas.
Non, effectivement.
Oui, comme non. En fait, c'est une hypothèse. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est le cas?
C'est ça.
Au moment où on se parle, c'est pas un élément qui est connu.
Bon, restons dans l'hypothèse et élargissons. Quand un suspect, là, on sort de ce cas-ci, là, on sort complètement de ce qui nous intéresse ici chez Desjardins. Mm-hmm. Quand un suspect décide de parler, Mme Filteau, à quel point il peut sauver sa peau?
Écoutez, c'est extrêmement variable. Ça dépend du genre d'information qu'une personne peut donner, quelle est l'utilité, quelle est la véracité, surtout, de ce que cette personne-là peut fournir comme renseignement. Parce que ici, ce qui est le plus important, puis je pense que c'est là-dessus que les policiers sont probablement en train d'enquêter, c'est qu'il y a deux volets. Hein? Il y a le volet vol
de données.
Des données. Et il y a l'aspect réseau à qui ces données ont été vendues. Puis dans le moment, c'est peut-être ça qui est le plus important, parce que le premier aspect semble, du moins de ce qu'on comprend, résolu. Le deuxième aspect, c'est celui qui est le plus important, parce que c'est celui qui permettrait peut-être de bloquer l'utilisation de ces données-là dans un but frauduleux. Alors cet aspect-là, il est pas mal plus complet. Alors, si on sort du cas, puis on arrive dans des cas généraux, pour répondre à votre question, plus l'information est pertinente, plus elle peut être avantageuse pour la personne qui donne l'information. Alors, ça peut aller à de la réduction de peine, ça peut aller à à ne pas accuser la personne.
Ça peut aller jusque-là,
oui. Ça peut aller jusque-là. Ça s'est vu dans certains dossiers.
Bon. Et ça peut faire tourner les choses aussi. Là. C'est, en fait, on revient encore, je tiens à le dire autant que vous, qu'on est dans l'hypothèse.
Oui.
Personne ne nous a confirmé quoi que ce soit.
Oui.
Mais ça pourrait expliquer donc que ça passe.
Mais moi, je peux comprendre que les auditeurs soient très anxieux de savoir qu'il n'y a pas encore de procédures judiciaires qui sont entamées contre un ou des individus reliés à ça. Par contre, le plus important, c'est qu'il ne soit pas fraudé en bout de ligne. T'sais. Si l'enquête mène à ça, ben ça prendra le temps que ça prendra.
Oui.
Si on est dans un contexte probablement international, il y a tout un processus qui est quand même assez complexe. Là, la demande de collaboration étrangère, etc. T'sais. Fait que c'est pas simple comme ça peut sembler à première vue. Alors, ce sont des enquêtes qui sont complexes. Puis c'est sûr que s'il y a des collaborations qui sont utiles par le suspect ou d'autres personnes, ben éventuellement, ça fait accélérer les choses. En fait, c'est dans ce sens-là. Ça peut avoir une utilité importante.
Absolument. Ça peut ralentir le processus, si jamais c'est le cas, mais en bout de ligne, ça donne des résultats plus intéressants. Dites-moi une chose, il nous reste à peine une petite minute, minute et demie. ça passe tellement vite, Mme Filteau. Est-ce que c'est la police qui incite la personne à parler ou est-ce que, en général, de ce que vous avez vécu comme expérience, c'est le suspect qui, à un moment donné, va dire à un policier ou à dire à son avocat, écoute, moi, j'ai le goût de parler, là, j'ai pas le goût d'aller en prison, j'ai pas le goût de ci, j'ai pas le goût de ça. Comment ça marche?
Oui, c'est ça. Ben, c'est un et l'autre. Okay. C'est-à-dire que ça peut provenir autant des policiers que d'un individu qui, voyant la preuve, voyant les conséquences, décide de collaborer. Alors, mais ce que je veux ajouter là-dessus rapidement, là, c'est que c'est certain qu'une personne qui fournit des informations dans un cadre de délation, les informations doivent être absolument vérifiées de façon très minutieuse, parce qu'il ne faut jamais oublier que la personne qui criminalisée, qui donne des informations, a de multiples intérêts et dont le premier n'est pas toujours d'aider la justice.
Tout à fait, alors, puis on parle de gens qui ont trahi. On parle de gens qui ont trahi.
Ce sont des gens qui ont trahi leur... C'est dans des cas de fraude, ça va être leur employeur, leur ami, leur famille, pour se donner des avantages. Alors, cette personne-là, dans un autre contexte, cherche aussi à obtenir des avantages en trahissant certaines personnes avec qui il a fait affaire antérieurement. Alors, il faut être extrêmement vigilant à vérifier la qualité des informations qui sont données par les personnes qui trahissent, en fait, c'est ça l'expression. Tu sais. Mais, dans le processus, ça peut être fort utile quand c'est bien vérifié.
Madame Filteau, Madame Christiane Filteau, avocate criminaliste récemment retraitée, merci infiniment de ces informations et je tiens à ressouligner qu'on était dans des hypothèses ici dans le cas qui intéresse Desjardins. C'est important de le dire.
Tout à fait.
Merci infiniment. Très clair.
Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir.
Bye bye.